Monique Alessenk est demandée. Alessenk, bienvenue dans Critique Biaisée, épisode Le Barbecue, dans lequel nous allons traiter de Your Honor avec la clique de d'habitude. Pierre, salut Pierre.
Et salut.
Olivier.
Hey hey.
Oh, mon Dieu.
C'est gênant, enfoiré.
Bienvenue dans Critique Biaisée de Boomer aujourd'hui. Salut Romain.
Oh là là, salut, c'est j'en dur, peux plus. Dur.
Salut Benjamin.
Il m'a ôté toute envie de vivre, bonjour à tous.
Merci Olivier pour cette intro. Les amis, dans le barbecue, nous adressons Your Honor en pro, Your Honor, pardon, en profondeur. Nous allons essayer de détailler ce que nous avons aimé, ce que nous n'avons pas aimé au travers de chroniques, de débats, d'intelligence artificielle et de petits jeux. Donc, au menu, effectivement, donc, la chronique de Pierre qui va aller dans les détails hein, de Your Honor, le débat, la chronique de Lucien, je me répète, le jeu et la conclusion, voilà. Nous allons donc commencer, si vous le voulez bien, à parler de Your Honor par Pierre qui va nous expliquer un petit peu de quoi ça traite et des sujets sous-jacents. Si je ne me trompe pas, Pierre, c'est bien ça.
Tout à fait. Alors, moi, il y a des thèmes qui m'ont un peu parlé. Alors, pas par expérience, vous en doutez, mais tout simplement parce que je trouvais que c'était intéressant. Et j'ai voulu les creuser un peu sous la forme d'une petite introduction, d'un petit résumé de la série un peu plus poussé, notamment autour de ces thèmes. Désolé par avance. Alors, encore une fois, Bryan Cranston nous emmène sur un chemin semé de ce qui sont en réalité des faux dilemmes. Il nous entraîne avec lui dans un effet papillon dramatique, une grande illusion qui nous laisse penser que les protagonistes sont en contrôle des événements qui se déroulent devant nous. Quand en réalité, leur destin, à l'image d'un drame grec, est en fait scellé depuis cet instant fatidique où Adam fuit la scène de son accident. Et cette spirale infernale, la lutte d'un père face à cet engrenage d'événements qu'il tente sans succès de stopper tout au long du récit, finit par se perdre dans le tissu de mensonges qu'il a lui-même cousu. Peter Moffat, dans son histoire inspirée de la série israélienne Kvodo, qu'il n'a en fait regardé qu'à un point très avancé de son scénario afin de ne pas en suivre totalement les mêmes lignes, veut nous montrer que même les meilleurs d'entre nous, face à une situation impossible, peuvent emprunter le chemin de la damnation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le choix de Bryan Cranston semble parfait pour l'impression initiale qu'il nous dégage d'un homme profondément bon. Dans le rôle d'un juge respecté, qui nous impressionne par son intégrité et son intelligence, on nous fait témoin de la chute spectaculaire d'un homme d'honneur. Il nous montrera également des capacités insoupçonnées pour le mensonge et l'intrigue. Poussé dans ses retranchements, face aux conséquences de ses actions et des enjeux toujours bien présents, viendrait-il à faillir ? Il utilisera tout l'arsenal de ses connaissances juridiques et judiciaires, nous révélant rapidement un homme très habile dans la manipulation. Et dans cette lutte effrénée contre le destin de son fils, les choix difficiles qui se succèdent, on nous pose à nous la question de quelle était la décision qui a franchi la ligne de l'impardonnable. Quand, face aux conséquences de celle-ci, on ne peut que constater les drames qui ont été causés par le choix d'un père de protéger son enfant à tout prix. On nous met au défi de trouver la bonne réponse à un dilemme qui n'en est pas un. Et cette fin tragique en est l'illustration parfaite. Quand épuisé, après avoir renié tous ses principes, causé la mort d'innocents et l'horreur de ses proches, après avoir usé de son autorité et de ses privilèges, commis des crimes impardonnables, il est laissé, impuissant, dans un final très shakespearien, face à son incapacité à sauver son fils, rattrapé cyniquement par le destin. Et ce, même au prix de son âme. Et vous, qu'auriez-vous fait ?
Waouh.
Ça donne envie. Ça donne envie. Franchement, moi, j'écoute ça. Moi, j'adore. J'ai envie de le revoir, du coup.
Moi, j'ai kiffé. Vas-y, j'ai trouvé la chronique mieux écrite que le.
Mieux que la série.
Donc, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire une série sur la chronique?
Waouh. Je me suis dit, en vrai, c'est trop bien parce que, effectivement, j'ai compris des trucs. En fait, je me suis dit, mais elle a l'air trop bien, cette série. C'est dommage que.
Tu sais, j'étais sûr que t'allais dire un truc
dans ce genre. Je suis d'accord avec toi. Les problématiques telles qu'il les soulève là sont plus claires que dans la série. C'est,
ah non, non, mais
c'est plus limpide.
C'est... Bah, je suis d'accord. Non, mais c'est vraiment,
un peu la trame de fond mise en lumière, quoi, parce que pour le coup, cette idée de personnage qui suit une espèce de route inarrêtable, je pense qu'elle est, elle est saisissable, quoi, mais c'est le thème, pour moi, c'est le thème phare. Est-ce qu'a voulu montrer Moffat dans cette série?
Mais, ah, t'inquiète, c'est marrant parce qu'on va en parler dans le débat, je pense. Mais ouais, j'ai adoré ta chronique. Je suis pas d'accord avec grand chose, et notamment sur le côté, c'est une personne qui est très intègre. Alors je suis d'accord qu'on a voulu nous montrer, et je pense qu'en réalité il y a plein d'indices qui nous laissent voir, entrevoir que c'est pas du tout le cas. Je pense même qu'il a peut-être tué sa femme.
Eh ben,
ah,
nickel.
C'est une théorie intéressante.
Attends, c'est Lucien qui te l'a dit, Olivier, ou c'est
Alors. Lulu me l'a un petit peu soufflé à l'oreille.
Ah,
on connaît tous les trucs.
Il y a un petit
d'accord.
Non, du coup, j'ai pas du tout la même vision du truc, mais c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue.
Pour ceux qui n'ont pas aimé, enfin qui ont trouvé ça assez long, les thèmes soulevés par Pierre, qui sont cet homme d'honneur qui finalement a une sorte de qui passe dans les saureuses et à la fin il perd jusqu'à son âme, etc. Ça, vous avez pas accroché avec cette descente aux enfers quelque part qui nous est proposée de sa stature jusqu'à la fin tragique que Pierre évoquait. Olivier, Benjamin, ça vous a pas touché.
Je t'en prie, Olivier, si tu veux. Ouvre le bal de la haine.
Ouais, allez, je me lance.
Le bal de la mauvaise.
Vous pouvez m'appeler Carrie. Du coup, alors si le sujet est intéressant, le sujet de dire ok, il y a une descente aux enfers, etc. Bon, déjà le point de départ, moi j'ai pas le même. Je pense pas que ce soit un homme si incroyable. Quand tu vois à quel point il est torturé à l'idée que de pouvoir perdre son fils, c'est quand même étonnant que pendant toute la série, on le voit jamais une seule fois parler de sa femme dans aucun autre contexte, donc sa femme qui est morte, assassinée, on le voit jamais parler de sa femme dans un autre contexte que pour manipuler d'autres gens. Je sais pas si vous avez remarqué. Lui n'en parle jamais autrement que comme ça. C'est un case qui n'est pas du tout résolu, et il a pas l'air d'y mettre plus de passion ou de temps ou d'énergie que ça, alors qu'on sait toujours pas qui a tué sa femme. Ce qui est quand même vachement étonnant quand tu vois le type d'effort et de facilité avec laquelle il arrive à être informé d'un peu tout, à aller taper à l'épaule d'un politicien, d'aller manipuler les flics, etc. Donc déjà, moi, le point de départ, c'est pas exactement le même, et même la première scène qui nous est montrée pour essayer de montrer à quel point c'est un homme intègre, c'est tout sauf ce que ferait un juge. Et donc en réalité, il montre l'inverse d'une neutralité. Donc typiquement, il y a une scène d'ouverture où on le voit courir et aller chez chez un accusé et se rendre compte d'un défaut matériel, bref. Et en gros, pendant le procès, il va prendre la défense de la personne qui est accusée à la place de l'avocat de la défense, etc. C'est tout sauf intègre, et c'est tout sauf ce qu'on attend d'un juge. Et donc en fait, le truc qu'on nous montre au départ, c'est clairement un truc qui nous montre l'inverse de la droiture et de l'esprit qu'il devrait avoir.
Pour moi, c'est plus montrer qu'il care, enfin qu'il est impliqué dans son métier. Et du coup, moi, ça m'a pas, effectivement, techniquement, mais je suis pas juriste, mais techniquement,
un juge ferait ça. Il est.
Je sais pas. Du coup, ça, je me suis pas arrêté parce que je suis parti du principe que ça me paraissait chelou, mais que le côté caring était, c'était plutôt ça. C'est un juge qui est impliqué dans son cas. Donc quelque part, ça, je l'ai mis de côté, mais je l'ai remarqué aussi. Et je me suis dit bon.
Mais
okay,
c'est étonnant.
C'est plus en mode au-delà des codes plutôt que vraiment quelqu'un de non intègre, parce que.
Oui, c'est un peu.
Ça correspond pas forcément effectivement au rulebook d'un juge, mais il fait ça en quote and quote pour la bonne cause, et pour moi ça remet pas vraiment en question son intégrité à proprement parler.
Oui, mais bon, après on va pas faire un truc sur la loi, c'est pas le délire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que en gros, même la scène d'ouverture qui nous est proposée, elle est pas voilà. Et après, t'as une évolution du personnage qui fait que moi, j'avoue, j'ai pas forcément accroché, même si j'ai bien aimé les 3-4 premiers épisodes, dans le sens où l'évolution, elle est très très rapide. C'est-à-dire, il y a une espèce de volte-face très vite où il s'est, tu sais, j'ai cru revoir Beth Harmon, si vous avez écouté notre premier épisode sur les échecs, où tu sais, quand elle visualise l'échiquier, où il est là, attends, qu'est-ce que je dois faire? Tout se met en place, et le mec, c'est déjà, alors je vais parler à telle personne, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et en fait, pour quelqu'un qui est très intègre, il est quand même drôlement habile pour manipuler les autres. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même étonnant, parce qu'on le voit pas galérer beaucoup, on le voit galérer parce qu'évidemment, tout déraille tout le temps. Mais en réalité, lui, ce qu'il met en place, putain, mais il est trop fort, quoi. C'est pas comme dans Breaking Bad, et on va certainement faire la comparaison beaucoup parce qu'on est sur des trajectoires qui sont intéressantes. Breaking Bad, on le voit être complètement gauche, complètement perdu, complètement en train de se questionner sur mais qu'est-ce que je dois faire ensuite, tu vois. Et on le voit pas trop, ça. Il est tout le temps déterminé, il sait tout le temps ce qu'il veut faire. C'est pour ça que moi, je me dis, honnêtement, il y a un truc qui cloche. C'est pas quelqu'un, comme vous l'avez décrit et comme tu l'as décrit dans ta chronique, qui part d'un truc où il a jamais eu de pensée criminelle, entre guillemets, je trouve, parce qu'il sait déjà comment s'y prendre.
Moi, si je peux rebondir là-dessus, justement, je trouve que... Enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que, en fait, au début, quand la série a commencé, j'ai pas du tout vu l'homme intègre. En fait, j'ai vu un homme dans sa vie civile qui était extrêmement manipulateur, quelqu'un qui a des grandes facilités, en tout cas, à mentir et à bien appuyer là où ça fait mal, à bien tourner les choses comme il le veut. Et au début, je pensais que c'était quelqu'un, en fait, qui n'avait de droiture que celle de son métier, en fait. C'est quelqu'un qui se retrouvait dans la justice qui implique son rôle de juge, là, etc. Bon, je me suis dit, voilà, il a une sorte de double facette. En fait, au fur et à mesure que la série évolue, on se rend compte que c'est même pas forcément le cas, notamment quand il parle à Jimmy Daxter et qu'il lui explique dans le détail comment est-ce qu'il va retourner le jury, comme s'il l'avait fait déjà des centaines de fois auparavant. Il les manipule, il les amène exactement où il veut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune droiture au sens de la loi, en tout cas. Peut-être qu'il a de la morale qui est bien à lui, mais en tout cas, il n'applique pas du tout les principes qui devraient être les siens en tant que juge, puisqu'il va amener les gens à aller dans sa direction et donc dans son jugement. Et il n'est pas du tout impartial. C'est quelqu'un qui
a simplement très convaincant. Des ficelles, non enfin,
bah, je veux dire,
il est juge depuis 30 ans et il connaît forcément les envers. Enfin voilà, ce qu'il faudrait faire ou pas. Ce qui est logique dans n'importe quel métier. Au bout de 30 ans, tu sais comment niquer le truc.
C'est ça. C'est les termes. C'est les termes.
C'est comme si tu reprochais à un inspecteur d'être capable de commettre un crime quasi parfait, quoi. Dans le sens où
mais tu vois,
il sait ce qu'il va chercher, il sait comment. Enfin, tu vois ce genre.
Ouais, mais tu vois, un inspecteur, par exemple, il te dirait
c'est
pas.
De la déformation professionnelle.
Si je veux cacher une preuve, je vais bien faire comme ça, là, comme je vais bien les baiser. Nanana. En fait, lui, il est en mode, là, je vais devenir leur père et tout, je vais les contrôler, puis c'est moi à la fin qui leur dirai comment penser et tout. Tu sais, c'est les termes qu'il utilise plus que ce qu'il
mais
dit.
En même temps, il a besoin d'être très convaincant parce que sinon, il va littéralement se faire tuer. C'est-à-dire que si tu parles, on peut faire la même allégorie avec un inspecteur. Un inspecteur qui se retrouve dans une situation de vie ou de mort, où il a besoin d'utiliser les compétences qu'il a acquises dans son métier pour commettre un crime parfait, par exemple, pour tuer quelqu'un, pour quelqu'un d'autre qui veut sa mort ou quelque chose.
Ah oui, mais...
C'est exactement pareil. Il pourrait essayer de prouver son case en disant « Non, mais écoute, je vais faire ça, 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 comme ça. Personne ne trouvera jamais son corps. » Parler dans une tirade un peu effrayante parce qu'il doit être convaincant. Pas du tout étonnant.
En fait, le point c'est que c'est tout du long. Et en fait, c'est plus... Partons du principe que peut-être on nous montre, tu sais, je sais pas comment on dit, caché à la vue de tous. C'est exactement ce truc-là. Si tu tires la pelote, tu peux te dire, ah, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une théorie possible? Moi, j'affirme pas que c'est ça.
Une espèce de
méta-plote,
mais honnêtement, j'aime beaucoup ta théorie, par contre, parce que c'est, enfin, l'idée qu'en fin de compte, il soit un manipulateur compulsif et que ce soit lié pour une potentielle saison 2 à la mort de sa femme, l'idée, je la trouve passionnante.
Mais. Moi, je pense que c'est ça, parce que sinon, le plot de l'histoire de la femme, qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait?
Ben justement,
il
ne
sert
que
de prétexte, il ne sert à rien de tout du long de la série. Et tu te dis, mais et encore une fois, lui n'en parle jamais avec beaucoup d'émotion, si ce n'est pour vraiment tout le temps manipuler.
Mais sur ça, moi, j'ai vu de la... Pardon, vas-y, famille.
Ouais, je voulais juste dire un truc. Est-ce que vous connaissez le narrateur non fiable? Pour être ce que dit Olivier. Vous avez vu le Joker ou pas? Il y a beaucoup de choses où on se dit, en fait, la personne qui nous raconte l'histoire, elle est un peu malsain, pas saine d'esprit, en tout cas, elle nous raconte les choses à sa sauce. Et comme on voit beaucoup Cranston à l'écran et que c'est vraiment lui le pilier de la série, j'ai l'impression que, moi, je suis d'accord avec Olivier dans son analyse, et je pense que ça pourrait être ça, qu'au final, on nous montre vraiment que ce que lui veut bien nous montrer en tant que personnage, et que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant, en tout cas, pour analyser la série dans la saison 2, parce que peut-être que toutes les choses qu'on a vues, qu'on n'a pas aimées dans la saison 1, s'expliquerait par le point de vue en fait qui était adopté et que ce serait un gros mindfuck en fait en saison 2 et qui nous ferait mais c'est du génie finalement. Donc ça pourrait être intéressant.
Ce serait malin.
Après moi je sais pas sur le côté de la femme, moi j'ai cru que c'était un plot raté pour être honnête et du coup je me suis dit OK bon de temps en temps il y a ce fantôme justement au sens propre qui revient où il y a un délire autour de ça avec son fils. Je croyais que c'était pour builder quelque chose. Si derrière il y a effectivement un autre plot et que il en est un acteur principal, c'est génialissime. Là pour le coup la série passe à une note largement supérieure. Pour moi malheureusement quelque part ce qui ne vaut qu'un 7 7 et quel pour moi. C'est c'est que c'est juste des petits ratés. Moi, je pense que le côté ma femme est morte, c'était plus de la résignation, ce qui est très triste. Mais il a dit, je passe à autre chose. Ça devait être dur pour lui. Je l'ai imaginé comme ça, d'un point de vue empathique. Je me dis, bah, il a pas la solution. Elle s'est fait tuer. Et son fils, là, il est en péril. Il peut sauver son fils. Et quelque part, ça a le syndrome du sauveur supplémentaire où il se dit, là, je peux faire quelque chose. Et moi, je l'ai plus vu comme ça dans le reading.
Mais même ça. Il y a quand même une scène assez forte où la police, la femme policier l'interroge en disant « Mais attends, est-ce que tu sais qu'elle te trompait ?» etc. Oui. Et il dit « Oui, oui, je savais, mais comment tu ne nous en as pas parlé ?» Donc tu vois qu'en fait...
Ça aurait fait un suspect en plus, oui,
il a il a déjà caché des choses à la... Il est déjà manipulateur que vous dites qu'on est en train de découvrir et que c'est presque une descente aux enfers. Ben, honnêtement, il y a plein
de... était déjà...
Alors, c'est subtil, mais il y a plein de moments où on dit, mais en fait, non, il est comme ça. Et honnêtement, moi, par exemple, la relation avec le fils, j'y crois, mais alors pas du tout. Et il y a plein de moments très awkward, très bizarre, pardon, entre les deux. Et franchement, chaque conversation, soit c'est de la très mauvaise écriture, mais toutes les deux conversations qu'on nous montre à l'écran entre les deux, ils sortent, ils lui disent « tu te souviens de... » Et c'est tout le temps à base de souvenirs. Et c'est comme s'ils n'avaient rien à se dire. C'est comme si le personnage de Bryan Cranston, il était... il ne sait pas trop comment... il n'a pas... tu vois, presque sociopathe, quoi. Je ne sais pas comment gérer ça. Donc, en fait, je te sors des souvenirs de quand j'étais avec ta mère. Parce que là, comme ça, je ne sais pas builder du... Je ne sais pas créer du rapport, quoi. Bon, bref, je pense que cette théorie, on peut peut-être l'abandonner pour parler d'autres sujets. Mais, oui, mais voilà, c'est une des pistes que moi j'ai.
C'est une très bonne piste. Moi, je voulais revenir sur d'autres sujets, parce qu'on a dit Bryan Cranston, effectivement, il crève l'écran, il est au centre du truc, c'est la pièce maîtresse. Par contre, je suis totalement d'accord avec Pierre sur le côté, les autres personnages, en tout cas, les autres acteurs sont formidables. Moi, j'ai découvert Jimmy Baxter, là, j'ai pas bien fait mon travail, parce que je me souviens plus du nom des acteurs, mais je suis très nul sur le nom des acteurs. J'ai découvert cet acteur, il est dans plein de séries, plein de films. Il est dans plein de séries, plein de films. Il est extraordinaire dans ce.
Attends, Thomas, dans tu peux reprendre. Tu peux répéter, j'ai pas entendu le nom de
Mike
l'acteur.
Non plus,
j'ai. C'est quoi, Thomas?
Pierre.
Il a dit quoi, Pierre, comme nom d'acteur?
On est en train de piéger Thomas, mais Thomas, il fait genre. Il est en train de
piéger. C'est moi dont vous attendez. Michael, c'est ça?
Stuhlbarg. Stuhlbarg. Comment ça se prononce? Mais j'ai noté dans mes notes. Enfin bon. Stuhlbarg.
C'était un piège.
Ah d'accord. J'avais entendu, mais j'arrivais pas très bien à répéter. J'avais peur de mal dire le nom.
Dans Boardwalk Empire déjà, pour ceux qui l'ont vu, qui était une super série. Oui,
il est ouf cet acteur. Moi je l'ai trouvé formidable. Du coup, il a fait un méchant super caractériel. Je trouve que ses envolées sont ouf. Il a une tête à la Casey Neistat. Moi, il fait penser à Casey. Bon, on a les références qu'on a, mais. Et du coup, ouais, j'ai adoré. Je l'ai trouvé ultra crédible.
Moi, c'est marrant parce que je trouve qu'il joue vraiment le... En fait, il y avait des moments, je trouvais qu'il y avait des fulgurances, c'est-à-dire ce qu'il arrive à faire passer comme émotion sur son visage, tout en gardant cette espèce de mimique là qu'il a avec l'espèce de sourire inversé. Là, il a une espèce de mimique très présente à l'écran, mais il arrive à jouer un jeu d'émotions qui est très large avec la même mimique. Ça, j'avoue que c'est fort. Par contre, je trouvais que ça jouait par moments, c'est vraiment le mafieux de... Enfin, c'est le mafieux de base, quoi. C'est partout, quoi.
Ouais, mais bien exécuté. C'est-à-dire, pour moi, il y a un problème avec ce genre de choses qu'on dit souvent. C'est que des personnages qui sont assez stéréotypés, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose par défaut. Tu peux avoir des personnages stéréotypés, mais qui sont bien exécutés. Et pour moi, ça, c'est l'exemple type, encore une fois. C'est-à-dire que oui, c'est pas du jamais vu, mais faut pas toujours chercher à faire quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est pas plus mal de reprendre quelque chose qui fonctionne et de l'exécuter efficacement. Et pour moi, non, c'est typiquement l'exemple avec Jimmy Baxter.
Non, mais c'est toujours pareil. Hein. Il y a plein de très bonnes séries et très bons films où il y a des stéréotypes. La question, c'est comment le personnage est écrit. Hein. C'est juste ça.
Oui, c'est comme un scénario éculé. Tant qu'il est bien réalisé, tant pis si on l'a déjà vu 30 fois. Ouais. Si c'est bien fait, on prend, quoi.
Moi, le plus souvent, quand je dis, quand je me plains du stéréotype, c'est quand il n'y a pas d'autre chose à se mettre sous la dent. Si il y a autre chose à se mettre sous la dent, le stéréotype, tu l'oublies et tu te dis, OK, pas de souci, c'est cool. Là, en fait, le personnage, il y a quand même plein de moments, ses réactions sont relativement basiques, attendues. Il n'y a pas une écriture incroyable derrière ce personnage-là, c'est ça que je dis. Hein. Et il y a plein de petits moments où je me suis dit qu'ils allaient faire des trucs cool, tu vois, avec les tensions dans la famille, dans cette famille-là, etc. Et en fait, pas tellement. On nous joue même... Alors, on a parlé des acteurs secondaires qui sont bons. Je pense qu'il y a le fils qui est très agaçant. Très, très, très agaçant. Mais ça prouve aussi qu'il joue bien. Il y a ce mec-là. Par contre, par exemple, la fille du mafieux, justement, oh my God, qu'est-ce que ça joue mal.
Ah ouais, t'as trouvé que j'ai pas aimé son personnage, mais par contre, l'actrice, en l'occurrence, m'a pas...
Ah, et sans parler de l'écriture du personnage qui a tout pété, où genre, elle fait « Quoi ? Tu veux dire que mon frère, il a tué des gens ? Il était en prison il y a 2 minutes, qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Et puis t'es dans une famille de mafieux, c'est quoi le délire, en fait ?
Non, mon père, il vend des huîtres. »
C'est un peu ça. Attends, mais on n'est pas dans les petits mouchoirs, je comprends pas.
Le truc que j'ai trouvé dommage avec Baxter, c'est qu'il fait pas très peur en fait. C'est pas un mafieux flippant, je trouve. Il est pas.
Ouais.
En fait, la mère, elle fait bien plus peur que le père, quoi. La mère, c'est un peu qu'elle peut tuer tout le monde sans aucun
mais le duo
doute,
marche
quoi.
Bien
enfin,
du
remords, quoi.
Mais le duo marche
mère,
bien du coup.
C'est la mère de la famille Adams, on est d'accord.
Ouais, exactement.
Moi, j'ai vu ça.
Du coup, elle fait vachement
flipper.
C'est Morticia.
Plus peur que le père.
Morticia, voilà.
Ah, je suis d'accord avec toi, Romain, parce que c'est clair, mais j'ai bien aimé ce building, justement, ce jeu entre les deux, où tu vois qu'il est finalement assez soumis à sa femme, et, du coup, qui finalement, elle maîtrise tout, elle est diablement, c'est-à-dire celle qui on pense,
susurre
dans le mot de faire tuer Kofi, ouais. Donc, quelque part, elle est horrible, mais voilà, elle se cache un peu derrière Baxter, qui lui est très émotionnel, très émotif, et avec ses mimiques, effectivement, qui sont grandioses. Moi, j'ai adoré certaines scènes, la scène où, la scène de l'inhaleur dans l'épisode 10, je crois, quand à la sortie du tribunal. Le fils qui fait en contre-jour. Moi, j'ai l'idée qu'il découvre à ce moment-là qu'il réalise les deux, le regard et passe très bien. Je trouvais cette scène superbe.
Alors,
moi,
le jeu d'acteur, incroyable. Mais alors, quelle écriture à 2 balles, sans déconner. Tout le plot de la série repose sur des coïncidences partout. Mais... tout le temps. C'est-à-dire que franchement, c'est nul. C'est soit on est sur des trucs qui n'ont juste aucun sens, comme l'avocate ultra bankable qui abandonne et ruine toute sa carrière pour une affaire, franchement, comme il y en a plein. T'as soit des trucs comme ça qui sont vraiment des points faibles, je trouve, du scénario où tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, mais honnêtement, il y en a beaucoup. Soit t'as, par exemple, à quel moment on nous explique comment il y a un mec à la station essence qui voit un garçon avec un t-shirt taché sang et qui comprend que c'est le hit and run et qu'il faut faire chanter le juge. D'où ça sort Mais en fait, c'est que des coïncidences qui font avancer le truc. Le gamin qui va faire, qui se rend au tribunal et qui, du coup, est visible par la famille et donc ils comprennent que c'est lui le coupable. Le chien qui apparaît tout le temps au moment qui va bien.
Ça marche.
Je suis désolé, ça marche pas du tout.
Gamin qui va au tribunal, j'ai trouvé ça assez cool parce que tu sens justement dans sa psychologie qu'il se sent coupable et du coup il se fait du mal en justement datant la sœur du gars qui l'a tué, en allant au tribunal et finalement il est dans un cercle où il arrête pas de se faire du mal, le machin. C'est ultra triste, mais c'est assez cohérent. Après, là où je suis d'accord sur les coïncidences.
C'est ultra triste. Pas hyper triste, en vrai, il vient de tuer quelqu'un quand même. Mais bon.
Ouais, non, mais c'est triste pour lui.
En vrai, c'est lui le méchant, c'est pas les autres. Hein, quand on met l'histoire dans l'ordre, quand même, les méchants, c'est les gentils, c'est les méchants.
C'est vrai.
Et puis, c'est le pire gamin.
Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, je trouve.
Privilège.
Ah non.
Et
dans l'histoire, il bute un mec, quand même.
Oui, il bute un mec, mais t'as la notion de, effectivement, quand le père découvre que le mec dont le fils est mort, c'est le parrain de la mafia locale, t'as pas forcément envie de dénoncer ton gamin après ça, quoi.
Bah oui, mais bon, c'est quand même le méchant, du coup.
Bah non, ça en fait pas un méchant, c'est-à-dire qu'il y a un dilemme de survie, c'est-à-dire qu'il a la bonne chose à faire, c'est-à-dire dénoncer son fils, sauf que s'il le dénonce, il se fera littéralement tuer. Et c'est pas le mauvais choix d'essayer de sauver son... C'est le choix égoïste, peut-être, mais c'est pas mauvais. Pour moi, il n'y a pas une notion noire ou blanche de mal ou de bien, au contraire, c'est l'exemple type d'un dilemme.
Sur qui finira par arriver, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, Romain. Ça, alors là, pour le coup, je vais être très clair avec vous. J'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la scène où le gamin tire, donc le frère de Kofi, Eugene, je crois, il tire. Et là, du coup, tu t'attends pas à ce que ce soit finalement le pauvre fils là qui meurt. Il fait un miss shot terrible. Pour le coup,
c'est pas du tout un miss shot. C'est-à-dire que le mec n'est même pas dans le plan. C'est-à-dire qu'en fait, soit elle rebondit sur 35 plats en argent, elle a tapé le mec, soit le gamin, il s'est pété le poignet sur un angle de 95 degrés et le flingue est tourné. C'est pas possible.
Ça n'a aucun sens, cette fin.
Au-delà du cartoon, au-delà du côté cartoonesque du truc, moi, c'est la scène qui m'a vénère de ouf. Parce qu'en fait, quand regardes avec un peu de hauteur la série, c'est pour ça que j'ai bien aimé les 3-4 premiers épisodes, parce qu'en fait, on te donne à voir un miroir. On te met, toute la mise en scène, etc., c'est un miroir entre les familles blanches et la famille noire. Comment les noirs dans cette histoire sont complètement déshumanisés. Même Kofi, quand il est devant le juge et qu'on le déshabille pour regarder. Enfin, on est vraiment dans ce truc-là de il compte pour rien. On prévient même pas sa famille quand on le tue, on étouffe son affaire. Enfin, vraiment, il y a tout ce truc qui était, je trouve, intéressant avec cette idée de montrer la violence systémique du racisme et comment c'est vraiment difficile à enrayer. Et donc, en fait, on se rend compte que cette famille noire, au fur et à mesure de 3-4 épisodes, elle disparaît complètement. Alors, pour de bonnes raisons, puisque tout le monde se fait tuer, à l'exception de ce gamin qui est relativement innocent, intelligent, etc. Et on nous montre à plein de moments qu'il est intelligent. Et en fait, cette série qui montre pendant 3-4 épisodes ce racisme systémique rend le seul personnage un peu avec des valeurs noires le coupable à la fin de l'acte tragique qui vient ôter la vie d'Adam. Et d'Adam, en plus, hein, si vous regardez on est vraiment dans une super mythologie, quoi. Non, mais honnêtement, ça m'a vénère de ouf, parce que je me suis dit, putain, enfin une série qui montre comment le privilège blanc est problématique et la violence systémique. Et à la fin, c'est quand même lui qui tue. J'ai trouvé
ça illustre un autre problème, c'est-à-dire qu'il est devant une parodie de justice, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a tué son frère. Il essaie de croire aux moyens qui sont mis à sa disposition par le biais de la justice pour être déçu par un procès qui a été truqué au final. Et la réaction, au final, elle est assez humaine. Et je ne suis pas du tout d'accord dans l'idée où ça le montre sur le jour d'un criminel. Ça montre quelqu'un qui a essayé toutes ses options, qui s'est fait trahir par le système au final et qui n'a eu d'autre... Enfin, qui a, dans sa vision des choses, eu d'autre choix que de faire justice lui-même.
Mon propos n'est pas sur la psychologie du personnage, mon propos est sur qu'est-ce que vient raconter cette série sur la société d'aujourd'hui, où je dis,
oui, mais
en
ça
fait,
enlève,
je suis
ça
ultra
enlève
déçu,
pas ça.
Je suis ultra déçu que, en fait, ils aient pas divorcé de l'image habituelle, parce que quand même, il y a une bonne partie très caricaturale, notamment les premières scènes dans les premiers épisodes de New Orleans avec les noirs qui zonent avec un air menaçant. Il y a quand même des moments très caricaturaux. Il y a tout un développement qui est intéressant et à la fin, on revient dans l'éternel truc de « Ah, mais vous voyez, il s'est quand même... » À la fin, c'est lui qui tient l'arme, tu vois. Moi, ça m'a déçu profondément parce que ça aurait pu être un moment de divorcer de cette tradition-là de visuel télévisuel. Et je trouve que c'est un acte manqué.
Est-ce que
vraiment dommage.
Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est presque une critique, en fait, justement, que le fait que ce jeune adolescent noir doive prendre une arme pour faire valoir ses droits, pour faire valoir sa justice, qu'ils doivent en arriver là, est-ce que ce n'est pas une critique du système aussi forte que ce qu'on nous a montré lors des phases de procès. C'est-à-dire que comme on lui a refusé l'accès à la justice à cause du système et de la discrimination du système blanc, en fait, qui discrimine les Noirs, et notamment dans la justice américaine, est-ce que, justement, il en est arrivé là à cause de ça? Est-ce que ça, c'est pas une critique aussi forte que toutes les phases de procès?
Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, pour le coup, clairement.
Peut-être. Non, mais peut-être c'est leur intention. Encore une fois, je dis juste que dans l'image, et notamment dans l'image raciste que tu peux plaquer sur ça, tu vas te dire les Noirs,
ça fait cliché, oui.
Peut-être victimes cliché, de la violence systémique, deviennent coupables parce qu'ils n'ont pas d'autres choix. Et ben, oui, mais on aurait pu montrer un tout autre développement de ce personnage-là qui avait vraiment beaucoup de potentiel, puisqu'on montre même qu'à des moments, il se met à conseiller l'espèce de boss, etc. Donc, ils auraient pu lui donner un tout autre destin. C'est pas ce qu'ils ont choisi. Et cette histoire-là, elle a été racontée plein de fois. Donc, moi, ça m'a déçu de me dire « Ah, c'est dommage qu'ils aient pas une intelligence d'écriture qui donne un autre destin et que le noir, il puisse faire autre chose que d'être l'espèce d'outil dans le plot, quoi. » Parce qu'en fait, c'est ça, son rôle.
Et d'ailleurs, ça part d'une autre intention, parce que j'avais lu une interview où Moffat expliquait que ça ne devait pas être comme ça, le final, et ne devait pas y avoir l'intervention de ce personnage qui tue finalement le fils du juge. Et il devait arrêter ça sur la scène où Baxter le prend dans ses bras. Et en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du scénario qu'il s'est dit que finalement, le thème avec cet enfant qui avait finalement été complètement délaissé par cette histoire était devenu tellement central à l'histoire qui ne pouvait pas envisager la fin sans une apparition et une implication de lui sur le plot.
Ok.
Et c'est aussi là où sa volonté, c'était de le montrer, de le mettre en avant.
C'est raté, mais ouais.
Il aurait dû se retenir, du coup.
Ouais, peut-être la même question. Moi, je suis pas d'accord.
Les amis,
mais
le débat arrive à son terme, je pense. Il y a des éléments conflictuels qui ont été établis. Je pense que c'est différents prismes de voir cette série. Hein. J'entends très bien la déception. J'entends très bien aussi le point de Pierre. Moi, de mon côté, c'était plus une déception un peu plus bas niveau. Moi, j'avoue que j'étais juste déçu de la manière dont ça finissait parce que je trouvais ça complètement con. Mais du coup, c'est une série qui est... Moi, j'ai pas de profondeur. Moi, je suis avec le
crassinaire. Okay.
Moi, je voulais un spectacle et j'ai pas eu le spectacle.
Des explosions dans l'espace.
On peut plus rien dire. Enfin bref. du coup, les amis, je vous propose de passer à la chronique de Lulu parce que la saison 2, à mon avis, saison 2, il va y avoir après ce cliffhanger formidablement mal exécuté, mais
c'est pas fini encore. C'est pas signé pour l'instant.
Ok, très bien.
Bon, il n'y a aucun cliffhanger.
Peut-être que Lulu va avoir quelque chose à apporter à Peter Moffat, c'est ça, Pierre ?
Ouais,
pour la saison 2. Lucien et Olivier, vous avez la parole.
Super. Bah, vous commencez à connaître Lucien, hein, notre robot scénariste, notre intelligence artificielle au talent inégalé, mais à l'anglais approximatif. Donc, pas encore de carrière chez Netflix ou HBO pour l'instant. Bref. On va pas non plus cacher les choses. Hein. Il est évidemment très heureux de travailler avec nous. Hein, on va pas se mentir. Alors, on était au dessert l'autre jour quand Lulu, il me dit « Mais attends, ils ont pas dit que c'était une limited series, là, les Ricains. Donc, c'est qu'a priori, il y a une suite. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être, la suite de Your Honor ?» Eh bien, comme d'hab, il a écrit 3 propositions pour la saison 2. Donc, en l'occurrence, c'est Showtime, c'est ça, Showtime. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à piocher dedans et à faire travailler Lulu. La première proposition de Lulu est donc la suivante. La seconde saison sera basée sur l'histoire du juge et explorera les notions de pouvoir, racisme et corruption et comment ces problèmes sont parfois inextricablement liés au système judiciaire. Oula, attends. Mais attends, ça c'est... En fait, c'est la saison, hein, ça. C'est pas... Si elle avait été réussie, évidemment. Hein. C'est la saison. Ok, donc on apprendra aussi, me dit-il, que Desiato, donc, qui est le nom du juge, est très respecté car il est un vétéran de la guerre d'Irak, où il a servi avec distinction avant sa retraite et le début de sa carrière de juge. Bon, le mec a eu 1000 vies. Je suis désolé, Lulu, je t'arrête là. C'est super ennuyant. Va falloir faire un petit peu mieux, là. Ok, arrêtez seconde proposition, du coup. Il me dit « La famille et les amis du juge se retrouvent au cœur de la tourmente dans cette seconde saison. Adam n'est pas mort. Non. Sauvé in extremis par les secours, il se remet très lentement quand la tension monte d'un cran. Chaque membre de la famille est victime d'un hit and run, donc en français un accident provoqué par un chauffard qui s'enfuit. Il est donc très vite clair que nous ne sommes pas dans destination finale, que rien n'est dû au hasard. La question est donc maintenant de comprendre qui survivra et qui coordonne ses attaques. Tac. Ah oui, là on est, c'est moins chiant. Merci Lulu. C'est limite un peu cartoonesque, mais c'est un peu moins chiant. Donc peut-être on verra une saison 2 avec plein de... Voilà, chaque épisode, un nouvel accident. C'est un peu ça la proposition numéro 2. Proposition numéro 3, qui est aussi la dernière. Lulu me dit, bon, si on ne peut pas trouver une bonne suite, peut-être on peut trouver une meilleure origin story. Et là, je me dis, bah, banco, vas-y. Dans la saison 2, on s'intéresse donc à la femme de Desiato et le mystère de son meurtre. On sait déjà qu'elle le trompait, qu'elle a été assassinée sauvagement et que le juge ne fait jamais mention d'elle, sauf pour manipuler son entourage. Ah, malin ce Lulu. En remontant dans le temps, on découvrira comment leur mariage est en fait un mensonge. En réalité, elle a accepté une union avec le juge sous la pression de la mafia, en échange de la vie de son propre frère. Donc les liens entre le crime organisé et ce juge se resserrent. Alors, qui a tué cette femme? Était-ce le juge? A-t-il découvert la vérité sur l'origine de son mariage ou simplement était jaloux? Seule la saison 2 pourra nous le dire. Voilà les c'est différentes bon. Propositions et de Lulu pour une deuxième saison de Your Honor.
Il est très très
bon. Autant la chronique de Pierre, du coup, donnait encore plus envie de... Ça aurait été le truc superbe si la série avait collé à la chronique de Pierre. Autant si la saison 2 colle à la chronique de Lulu, Your Honor, ça va vite monter dans les charts. Hein.
Avec un peu de chance, on peut espérer. Mais comme l'a rappelé Romain, hein, c'est pas signé pour l'instant.
On verra bien. Parfait. Merci Lulu, merci Olivier. Nous passons à l'instant rigolo, l'instant fun, Romain. Le jeu de Romain.
Ah, enfin, le jeu, oui.
Débat.
Alors, toujours le même jeu, hein, on va pas changer de jeu toutes les 15 jours non plus. Donc, toujours une critique prise au hasard sur, sur l'internet, de personnes qui détestent ou qui aiment le film, avec des avis parfois bizarres. Cette fois, cette semaine, donc, j'ai pris que des films ou des séries où Bryan Cranston a joué.
Ok, c'est ça le lien.
Ouais, Wikipédia, c'est plus ou moins, Bryan Cranston.
Okay. Voilà, je pense que vous connaissez tous les films qu'il y a dedans, toutes les séries. On commence par une simple, comme d'habitude, comme toutes les semaines. C'est parti. Alors, c'est une petite critique de Hatso de Melk qui met un 0,5.
Oula.
Moi, les histoires sur la drogue, je ne trouve pas ça
Pierre,
drôle.
Pierre, Breaking Bad.
Ah oui, bien joué Pierre.
C'est vrai que j'ai pas dire mon nom.
Ah oui, j'ai oublié. Donc c'était.
Tu sais qu'on est dans un podcast.
C'est moi les.
J'ai oublié.
Moi les histoires sur la drogue, je ne trouve pas ça drôle. Donc pour moi cette série est à mettre à la trappe et illique et rapido.
Je suis choqué.
Il y a des histoires de drogue.
La team première.
J'avais pas aimé les premiers épisodes, j'avais trouvé ça long. Donc pour ma défense, quand j'ai écrit la critique, c'est voilà.
Ouais, je comprends. Allez deuxième. Donc, cette fois, c'est Pierre-Jean qui met 3 sur 5. De grosses lenteurs pour coller avec un pseudo-délire arty et autres clichés du genre. Malgré tout, ce joli film est prenant, bien joué et bien filmé.
Il n'y a rien, là.
Thomas, Your Honor.
Oui.
Non,
film, pour le coup. On est sur un film.
J'essaie, Your Honor The Film.
Attends, je connais pas.
C'est pas forcément l'acteur principal, hein.
Ouais, en fait, je suis en train de me dire dans quel film je l'ai vu déjà pour
bah oui, moi aussi, et je vois pas là.
Le film est connu, hein, vraiment.
Ah
sorti,
ouais
je sais pas quand. Il y a 5, 6, il est sorti quand 6, 7 ans peut-être
Olivier.
Vas-y.
Little Miss Sunshine. Non, il est pas dedans.
Non. Pensez bien à un petit délire arty là. Il a un peu raison le délire arty.
Comment
film assez lent. La BO est excellente.
Ah, faut que tu nous donnes le thème. C'est quoi le thème du film?
C'est lent. C'est très lent. Il y a une scène qui est assez mythique avec une petite veste dans un ascenseur. C'est pas lui qui la joue.
Driver?
Avec une veste avec, je crois que c'est un dragon. Non. Oui, Driver. Oui, Drive, pardon. Pas Driver.
Drive, pardon. Mais... Il a joué dans Drive.
Ça, on est connu?
Eh bien sûr, bien sûr.
Il joue la voiture.
Mais il joue qui?
Ah, non,
c'est pas le garagiste.
C'est le garagiste.
Eh oui, c'est le garagiste.
Oh, je m'en souvenais pas.
Le film le plus chiant de la Terre, Drive, merci.
Mais j'ai grave kiffé ce film.
Un film horrible. C'est mon épisode de juste l'acteur et l'indifférence totale.
Attendez, faut que les auditeurs aient la première fois que Thomas n'aime pas quelque chose.
Oui,
ouais,
c'est vrai
que c'est rare. C'est incroyable.
Mais non, mais je trouve ça d'une platitude, ce film. C'est tellement plat. Bon, on va pas faire le débat, mais voilà, pardon.
Alors, on continue. Alors, c'est une série cette fois. L'interprétation, l'absence de parti pris, la bande-son, la crédibilité
Thomas.
Des personnages et des situations. Ouais.
Malcolm, j'essaye parce que du coup.
Et non, c'est pas ça.
Putain.
Benjamin, Your Honor.
Eh oui, Your Honor.
Oh, Benjamin.
Eh oui.
Mais non.
Eh oui.
Mais non.
Je n'avais pas été absorbé comme ça depuis Mindhunter. Et elle fait partie de ces séries que j'adore car elle démontre qu'il suffit de s'inspirer de la réalité pour raconter les meilleures histoires. Il a émis 5
réalité.
Combien 5 sur 5
Ah,
mais parce qu'on tue, on tue tous des personnes qui sont dans
bien
le film
entendu,
organisé.
Sur la route.
Moi, j'ai déjà utilisé de la Ventoline, donc.
Et ouais, on est tous vrai, juges c'est aussi. Vrai. Non, mais c'est vrai.
En tout cas, moi, je mets des robes.
Ce sera donc l'illustration de ce podcast. Benjamin en robe. Il
et
me
merde.
Tarde de voir ça sur
cette
les Instagram.
Sera gravé dans ma mémoire.
Ma grande gueule.
Pour le reste de ma vie.
Alors,
je te remercie pas.
La note est de 0,5 sur 5. Et c'est Alexis. Il n'est toujours pas l'acteur principal. Sorti il y a moins de 10 ans. Le seul mérite de ce film pro-américain qui flatte l'orgueil des USA, c'est le petit rappel historique au début. Et oui, si l'Iran en est arrivé là, c'est à cause des Anglais et des Américains qui ont voulu s'accaparer le pétrole iranien.
Pierre,
vas-y, Pierre.
L'or noir?
Non.
Olivier Borat. J'en sais rien.
Pro-américain?
Pourquoi?
Je balance des trucs au pif.
La chute du faucon noir.
Non. Sorti il y a 9 ans, je crois. Sorti en 2012.
Independence Day.
Non. Il n'y a pas de
Benjamin, le truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le titre. Je sais pas, Lord of War, un truc comme ça, le seigneur de guerre, mec qui vend des munitions là.
Toujours pas. Ah ouais, c'est très cool comme film.
Je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur film en plus. Hein.
Ah ouais,
je dis pas de bêtises. Sorti en 2012.
Green Book, non, c'est pas lui.
Non.
C'est sur l'opération Sandstorm.
Je sais plus. Alors, petit indice, Ben Affleck.
Ah oui, Argo.
C'est ça.
Ah, bien.
Et il joue quel rôle là-dedans?
Ah là, j'en ai aucune idée par contre.
ça fait deux fois, mais c'est
franchement,
énorme.
Je m'en rappelle pas du tout. Quoi. Là, je sais pas.
La mitraillette.
L'acteur est inoubliable dans les rôles qu'il joue dans les séries, mais dans les films.
Un hélicoptère. Il joue un véhicule. C'est un très bon véhicule.
En fait, il n'y a pas beaucoup de films où il est vraiment acteur principal. Il y en a un autre encore là, mais sinon, c'est souvent un acteur secondaire. D'ailleurs, en parlant d'acteur principal, c'est l'acteur principal de ce film. noté 4 sur 5. Je crois qu'il a été nominé aux Oscars pour celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est léger et profond. On suit avec passion et éclat cette période noire du cinéma hollywoodien politisé jusqu'à la censure. Un biopic qui ne s'égare pas, et ce, par un maître de la digression.
Malcolm.
Nominé aux Oscars.
Enfin, Malcolm, c'est Malcolm.
Tout à fait.
Vous l'avez peut-être pas vu après, hein, c'est possible. Hein.
C'est récent, ça.
C'est 2015.
Ah, ça ne dit rien.
2015.
C'est un film un peu confidentiel. Attends.
Et c'est un biopic.
Nominé aux Oscars.
Ouais, c'est un biopic, a priori.
Ah oui.
Et c'est un biopic, attends. Il joue Marilyn Monroe. C'est pas celui-là?
c'est
Benjamin, il m'a mis des images dans la tête.
Il n'y a plus rien qui va.
Après, vous n'avez peut-être pas trop entendu parler de ce film, pour le coup, qui est plutôt bien d'ailleurs, c'est Dalton Trumbo.
Alors là,
pas entendu parler.
Alors,
quand il y a 6 ans, il a été nominé aux Oscars pour ce film, qui est plutôt sympa.
Ça fait 2 points pour Romain.
Vous avez l'occasion.
Okay. Ah bah, trop bien, on regardera.
Pour l'instant, Pierre gagne.
Ouais, non, c'est Romain qui a 2 pour Pierre, 1 pour Olivier et 1 pour Benjamin.
Ah oui, d'accord. Moi, Malcolm, personne, j'ai toujours...
Ça me dégoûte que Pierre gagne, je peux te dire.
Un petit 5 sur 5, de Dadou.
Ok, Olivier.
Thomas,
Malcolm.
Je suis en premier, on reverra.
C'était une hilarante et pétillante série comique portée par des personnages farfelus et débiles, avec une mise en scène soutenue par des situations burlesques et débiles, à consommer
débile,
sans modération
le
et débiles.
Et là,
on
attendrait Olivier pour dire Your Honor, du coup.
Alors du coup, il m'en reste un. Là, il y a égalité entre Pierre et Olivier. Il m'en reste un. Donc du
t'es
coup,
prêt
pourquoi
tu fais jouer entre les deux?
Attends, pourquoi Pierre et Olivier? Olivier, il a un.
Bah parce qu'il y a...
On l'a tous les deux dit avant.
Malcolm. Mais attends, moi,
il l'a dit genre ce matin, quoi.
C'est truqué, on dirait la justice américaine.
Thomas, quand on dit qu'il l'a dit avant, c'est pas dans les réponses d'avant, hein. C'est vraiment dans la même.
Mais j'ai dit en premier, hein. Et oui,
en 92.
Merci Olivier, maître Olivier, merci. Je te prendrai sur ma défense. T'as raison. Bon, ok. Vas-y.
Pardon. C'est entre Pierre et Olivier, c'est ça.
Donc il y a que qui joue. Hein.
Alors, c'est 5 sur 5. C'est un film. C'est un second rôle encore. Il faut s'en souvenir parce que je sais toujours pas où il est dans ce film.
Ça commence.
Je suis sans voix. Un chef-d'œuvre. Beaucoup de remakes ont été faits de ce film, mais celui-ci reste de loin le meilleur. À voir impérativement au cinéma.
Ouais,
c'est pas ça. Il y en a eu beaucoup de remakes de ce film.
Sérieux ?
Sorti en 2014, celui-ci.
Ah, je sais. Olivier, c'est Intouchable.
Oh, mais merde.
À voir impérativement au cinéma, Intouchable.
Un indice de contexte.
La musique est bonne d'Intouchable. Donc...
C'est vrai. Un contexte, on va dire monstre.
Monstre.
Godzilla.
Eh oui, Godzilla, bien joué, Olivier.
On l'a dit en
eh
même
Olivier
temps.
Olivier gagne, bravo.
Bah, il l'a dit avant.
On l'a dit en même temps. Félicitations.
C'est bien la même famille, les deux, je te le dis.
Ouais, on sent que c'est la même famille. Ouais.
Non, la différence, c'est que Thomas, c'est de l'inattention. Moi, c'est de la triche.
Donc je ne sais pas ce qu'il joue dans Goldie, hein. Ça, c'est...
Scoreboard Goldie, du jeu de la critique. Qui avait gagné la semaine dernière, il y a 2 semaines?
Alors voilà.
Ah, vous êtes attentifs.
Il n'y a pas de gagnant. Je crois que tu sais, dans ce jeu, il n'y a que des gagnants. Donc,
ah,
mais
très bien, j'ai
gagné. Les plus grands gagnants, Romain. Est-ce que ça ne serait pas nos auditeurs?
C'est vrai. Sûrement.
Les amis. Alors, moi, j'ai une idée. Si vous avez écouté le précédent épisode et que vous savez qui est le gagnant de la dernière fois, vous pouvez laisser une review sur Apple Podcast et mettre des gentils mots pour que d'autres gens nous découvrent. Ça nous aidera énormément. Et surtout, nous répondre à la question qui a gagné le jeu la dernière fois, que je puisse remettre mon titre en jeu.
Très belle manœuvre, Olivier. Bien
c'est
joué.
Malin.
Je crois que
c'est
personne malin. N'a rien vu.
Et ils vont rien voir venir.
C'est malin. En fait, déjà... il faut rajouter qu'on peut aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, @critiquebiaisé à peu près partout. Voilà.
Pas dans la description.
Commentez, likez et mettez une petite note.
Des reviews.
Maximum des étoiles, hein, soyons. Voilà. On est déjà à 45 minutes, donc le timing a été un petit peu explosé. Normalement, nous avons une recommandation. Nous avons le temps pour une recommandation. Je sais qu'Olivier a une bonne reco, donc à la limite, peut-être, sauf si quelqu'un veut absolument placer sa reco. Mais. Vas-y, Olivier, peut-être.
Bah, les rocos, c'est une bonne de toute façon, c'est 10 secondes. Hein. Moi, je recommande Ludoc. Donc, c'est une chaîne YouTube. C'est un des réalisateurs qui a le plus réalisé de trucs pour le YouTube français, donc à savoir Studio Bagel, etc., etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Manuel de survie du vidéaste, qui est une mine d'or de conseils pour réaliser soi-même des films. Donc, ça explique toutes les techniques, les plans, etc. Et du coup, sur sa chaîne, il fait une vidéo, je crois, par semaine. Et les vidéos sont genre, je prends des claques à chaque fois. J'aurais adoré avoir ça plus jeune pour m'amuser à réaliser des trucs. Donc bref, si vous êtes intéressé par le cinéma et tout, foncez parce que c'est des vidéos qui durent 5 minutes et vous apprenez trop de trucs.
Trop cool, ça fait trop envie. Est-ce que vous avez une dernière reco, les amis, pour compléter en
ouais,
une seconde
allez, je la balance, moi. Parce que vas-y, du coup, Romain. Si vous avez Meilleur Honor, il faut absolument voir Defending Jacob sur Apple TV. Voilà, c'est à peu près le pitch est plus ou moins le même. Enfin, c'est des procureurs, son fils de 14 ans va tuer quelqu'un. Et enfin, il est accusé de meurtre. Et voilà. Mais c'est à voir absolument. C'est
mais
meilleur que Meilleur Honor pour le coup.
Bien meilleur. L'écriture, c'est autre chose. Hein.
Ok, à checker.
J'aimerais bien faire la recommandation facile de cette édition. C'est effectivement Breaking Bad, c'est un peu l'exemple type de ce genre de personnage, mais beaucoup mieux exécuté dans le processus de descente aux enfers, etc. Et je pense que
c'est
à ce stade de la vie, tout le monde l'a vu quasiment. Mais si vous ne l'avez pas vu, pour moi, c'est un incontournable des séries, probablement une des meilleures séries de tous les temps.
Et persister,
pour moi,
parce que c'est pas évident à prendre au démarrage. Moi, j'ai vraiment galéré, j'avais pas du tout aimé au début cette série. Et au final, c'est une des meilleures séries ever, donc clairement. Alors, Benjamin, tu as un
truc à ajouter ? Moi aussi, mais absolument pas.
Formidable.
C'est pas possible, ça !
Est-ce que tu aurais une reco coréenne éventuellement ?
Babimbap. Non, je n'ai rien.
Waouh !
Non, je n'ai rien.
Ce sera bah,
c'est très bon
au montage.
Mais c'est très bon, c'est ma reco culinaire.
Bon, nous sommes dans un podcast woke et voilà, merci
en plus,
Benjamin.
En plus, moi j'ai été choqué parce que, on est dans l'épisode qui s'appelle Le Barbecue et tu nous parles de bibimbap, c'est dommage.
C'est clair.
C'est très dommage, c'est un raté.
Je veux dire, j'en dirai pas plus, je vais encore me faire biper.
J'avais comme reco The Expanse saison 5, si quelqu'un veut en parler avec moi, parce que personne n'a fini de l'avoir autour de la table. Là. On en parlera peut-être lors d'une autre session, mais elle m'a complètement explosé la tête cette saison. Donc si quelqu'un veut m'en parler, laissez un commentaire ou parlez sur Critique Biaisée, parce que The Expanse saison 5 est un chef d'œuvre.
Venez parler, s'il vous plaît.
Il y a moins ça dans la description.
Aimez-moi, mes amis ne regardent pas les choses cool, ils préfèrent Your Honor. c'est la fin de cet épisode. Pour rappel, nous allons traiter d'ici 15 jours d'une super série. Nous adorons l'espace, mais c'est pas vraiment une série sur l'espace, mais For All Mankind, série sur Apple. N'hésitez pas à regarder, c'est la saison 1 que nous allons traiter. Il y a la saison 2 qui est en train de sortir. Super série, une uchronie ou une dystopie, Olivier, je sais jamais, c'est toujours
uchronie.
Olivier m'apprend des mots, il me rend meilleur. Et donc, du coup, une uchronie formidable à regarder.
Et nous allons traiter la première fois. Peut-être que pour la première fois, Olivier mettrait une note supérieure à 5. Rendez-vous pour ce moment exceptionnel dans deux semaines.
Le cliffhanger parfait. Déjà pour la première fois, ou peut-être la deuxième fois, il va regarder toute la saison. Parce
voilà,
qu'il a déjà regardé.
Moi, on est sûr qu'il a vu.
Les amis, je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes journées devant vous. Soyez heureux, soyez fous. Des bisous. Ciao.
Belle semaine.
Je vous demande.
Bye bye.
Salut.